Coup de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et ravi de vous retrouver pour ces Good Luxe du week-end. En effet, Good Luxe Paris se décline désormais au quotidien sur BFM Business tous les jours entre 13h et 15h et tous les week-ends. J'ai le plaisir de retrouver mon acolyte pour un duo détonnant, Emmanuel Rubin. Bonjour. Oui.
Et je suis ravi dans cette posture, vous savez, ouais. L'homme qui ne travaille que le week-end. Allez, bossez bien. Hein.
Éditorial des éditions Jaloux cette
demain,
semaine.
Demain, c'est lundi.
Eh oui, petite reprise.
Au boulot, hein, Karine.
Allez, petit retour en arrière. Cette semaine, nous vous emmenons au salon du vintage avec Laurent Journeau. Cette année, il a décidé de mettre à l'honneur un grand nom de la jeunesse dorée des années 60. Maurice Renoma, styliste, photographe, scénographe. Il sera lui-même avec nous dans un instant, accompagné de Gabriel Boré, auteur du livre 1 plus 1 égale 3. Maurice Renoma, une aventure singulière parue aux éditions La Martinière. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour cette table, cette première nouveauté du week-end, c'est la table de la semaine.
Là, je vous promets,
fatiguée. Vous voyez, le week-end, le problème, c'est que je suis fatiguée.
Oui, c'est ça. Là. Oui, mais c'est pas grave, vous allez trouver votre rythme, c'est
très
normal. Allez, justement, je vais aller très vite pour une fois. Nous sommes dans le 12e arrondissement, un arrondissement qui est toujours un petit peu à la traîne de la gastronomie parisienne, rue Saint-Nicolas, avec une table qui est ouverte juste avant la fin de saison, la fin de l'année. Ça s'appelle Dersou. Je vais aller vite parce que cette table, elle appartient justement à cette nouvelle scène, à cette jeune garde bistrotière dont on parle souvent. Vous savez, celle qui aime à activer sa cuisine au jour le jour, au fil de l'humeur, le temps de feuilles volantes et de sur les feuilles volantes, un menu unique. Et sur les menus uniques, quelques plats séquencés. Trois entrées, et encore parfois même pas le choix. Trois plats et encore parfois même pas les suggestions. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut le coup d'aller dans l'entrain de ce genre de table parce que c'est vrai que c'est une cuisine souvent plus proche du produit, facile à vivre, facile à becter, un peu minérale. Pour ceux qui sont vraiment des coureurs de fourchettes, des pressés de la foodista, c'est vrai qu'on commence peut-être un petit peu à se lasser de ce genre de bistrot au nouveau genre. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on a tendance à ronchonner, nous qui avons la chance d'aller régulièrement au restaurant. Bref, le Dersou, rue Saint-Nicolas, dans le 12e, cuisine libérée, libertaire, un petit peu volubile, mais pour un bon rapport qualité-prix, ça fait du bien.
Ah,
allez, c'est pas mal. Je peux pas vous donner les plats plus que ça. Pourquoi? Parce que la vérité d'un jour n'est
pas
plus tout à fait celle du
lendemain
dans ce genre d'adresse. Mais c'est sympathique.
Allez, parmi les
décors légèrement Bobo Destroy. Hein.
Ça y est, vous avez terminé?
Oui, j'ai terminé.
Bon, donc.
Non, mais attendez, vous avez toute la semaine, vous êtes le chef, le week-end, je peux la ramener, mademoiselle.
C'est bientôt Basel World, le grand salon de bal de l'horlogerie et de la joaillerie. Alors, justement, je vais vous donner un petit peu des nouvelles des grandes marques de Swatch. Ça bouge pas mal de ce côté-là. Donc, là, notamment du côté de Paris. Parce que, à Paris, parmi les marques, on a le Breguet. La boutique rénovée vient de réouvrir avec le musée Breguet à l'étage. C'est place Vendôme. Il y a eu plusieurs mois de travaux. Ça fait 200 mètres carrés. Donc, on retrouve l'interactivité avec des films sur le savoir-faire de la maison Breguet, le savoir-faire de la maison de l'atelier de la vallée de Joux, où on voit le guillochage, le polissage, le ciselage, tout ce qui fait une montre Breguet. Et puis, le musée à l'étage. Il y a le registre des ventes depuis le 18e siècle.
C'est une des plus anciennes maisons horlogères
Exactement.
Du monde.
Et il y a évidemment une centaine de pièces historiques, mais de véritables pièces historiques, notamment la montre de l'impératrice Joséphine. Blancpain, maintenant. Blancpain
anniversaire
qui marque une nouvelle fois son attachement historique Blancpain, qui marque une nouvelle fois son attachement historique aux océans en soutenant l'Océan Innovation Challenge en collaboration avec The Economist. Donc, vous savez, Blancpain, c'est aussi les montres sous-marines. Et donc, voilà, pour faire perdurer les océans, ils s'engagent là-dessus. Et puis, à venir, Longines, qui ouvre sa première boutique en
première,
France.
Oui.
Voilà, ce sera le 25 février, 120 mètres carrés. Ce sera rive gauche. Je vous donnerai l'adresse très bientôt quand on en saura un petit peu plus. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Sandy Prenois, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous,
très
Sandy
bien.
Très en forme.
Bah oui.
Allez. Comme moi, nous, on travaille que le week-end. Hein.
Allez, une jeune femme à l'honneur.
Oui, alors avec ce site Cézanne.com, en fait, c'est l'histoire d'une chineuse passionnée qui proposait ses trouvailles vintage via différents supports avant de créer un site qui s'appelait Les Composantes. Forte d'un succès toujours grandissant, elle a commencé à réaliser ses propres modèles et à les proposer en ligne. C'était la naissance de Cézanne.com, qui est la contraction l'expression hein, de son prénom et de son nom. Elle s'appelle Morgane Cesalori. Sur l'eShop, donc une nouveauté chaque semaine en plus des collections en cours évidemment. Chaque mois, plusieurs pièces inédites dévoilées sur rendez-vous pour compléter là encore la collection. Et puis des essentiels, une collection permanente enrichie régulièrement. Début 2015, Cézanne a ouvert son premier espace lifestyle, donc avec des bougies, des bijoux, des carnets, que sais-je. Fin 2015 aussi, pour les nouveautés à venir, il va y avoir un espace qui s'appellera l'appartement. Ce sera un espace consacré au personal shopping, j'en dis pas plus pour le moment. Sur le web, grosse campagne de communication à travers le site cézanne.com et puis via les réseaux sociaux Pinterest, Facebook, Twitter.
Petite voilà. marque qui monte très fort. Cézanne, c'est une petite marque qui monte très fort et c'est une créatrice vraiment dont on entend parler de plus en plus.
Elle a eu la chance de contracter comme ça son prénom et son nom.
Oui, c'est
pas elle, elle a eu de l'idée.
Oui, enfin, son dit prenois, ça fait sanois.
Oui, mais enfin, moi, je monte pas ma marque. Oui. Donc, ça
et en Asie, ça peut faire des rires.
Une deuxième marque que je viens d'annoncer parce que je pensais que vous alliez me lancer, polder.fr. Vous la connaissez peut-être, c'est une marque parisienne qui proposait de l'habillement, chaussures, bijoux, tout ça pour femmes. Il y a aussi la ligne Bobo Chic pour fillettes de 4 à 14 ans. Et c'est, la nouveauté concerne cette ligne pour les fillettes. Ça s'appelle April Showers by Polder. La nouveauté, c'est qu'en fait, cette marque, elle était essentiellement vendue dans les magasins multimarques. Aujourd'hui, elle a son propre e-shop. Donc, on va pouvoir en ligne retrouver tout ce qui fait le succès de cette marque. Des petites jupettes, des sabots aux couleurs acidulées, des grosses mailles, des petits colliers. Voilà, les petites filles peuvent faire comme des grandes. Je trouve ça très, très chouette.
Comme les grandes font comme les petites.
Comme les grandes font comme des petites.
Bientôt c'est pas corner au Galerie Lafayette.
Oui, ce sera dans l'espace Le Lab, premier étage luxe. Voilà, et puis 400 points de vente partout dans le monde. C'est des marques qui marchent très fort. Hein.
Ça donc, s'appelle polder.fr, P-O-L-D-E-R. Merci beaucoup, Sandy. Vous restez avec nous. Un parfum pour vous, Emmanuel.
Et là, vous savez que c'est l'instant où chaque saison, je perds toute contenance. donc, si je vous dis un jardin sûr en matière de parfum, vous me répondez quelle maison ?
Hermès.
Ben bien sûr. Depuis 2003, Jean-Claude Héléa, qui est né d'Hermès, travaille comme ça à ce qu'on appelle les parfums jardins. Alors les plus célèbres, c'est peut-être un jardin sur le Nil, un jardin sur les toits. À chaque fois, il se balade comme ça à travers le monde pour essayer de transcrire l'idée d'un jardin, l'esprit d'un jardin, le temps d'un flacon. Cinquième donc parfum jardin de la collection, il est sorti il y a quelques jours, c'est le jardin de Monsieur Lee. Alors rien qu'à dire, le jardin de Monsieur Lee, on sait qu'on est parti du côté de là.
Chine,
bravo. Il est parti effectivement là-bas. Alors, le composé d'odeurs, c'est des bassins, des jasmins, des pierres mouillées. Bref, tout ce qui faisait le fameux jardin chinois, vous savez, qui est une manière de fantasme. Moi, je le trouve, celui-ci, très très réussi. On est toujours dans ces fragrances un peu buissonnières. Moi, je pense que c'est des parfums à la fois pour hommes, pour femmes, des parfums toniques, des parfums du jour, des parfums de la nuit, parfums multipistes dans la plus belle acceptation du terme. Et puis toujours, Jean-Claude Héléa, il aime à s'accompagner comme cela d'un autre créateur, le temps d'un flacon. On l'avait vu dialoguer l'an passé avec le cuisinier Rollinger, vous savez, de Cancale, où vous avez travaillé autour des épices. Là, il a travaillé avec un artiste chinois, Li Xin, qui lui a sculpté l'écrin, le flacon. Alors, on est dans les jaunes impériaux, les verts crus, les acides. Ça illumine un peu le flacon. Une très très belle réussite, mais encore une fois, et vous ne m'en voudrez pas, je suis totalement partie prenante. Je ne sais pas pourquoi, je suis amoureux de ces parfums. Mais c'est vrai que c'est assez génial d'avoir eu l'idée comme cela, et je le dis et je le répète à chaque fois, Héléa était l'un des premiers à, comme cela, travailler le parfum en manière sérielle. Après, Dior et d'autres maisons ont fait de même. Et je trouve que depuis 2003, le temps de ces parfums jardins, il construit une manière de cathédrale aux Faltives. C'est une petite œuvre en soi, où chaque pièce vient apporter sa note. Même quand on est un petit peu déçu de la fragrance, ou qu'on n'y est pas sensible, on sent qu'il y a la construction d'une œuvre. C'est assez rare en parfum. J'adore. Et pas de Dior. J'adore Hermès.
Alors, on va voir si ça va continuer, parce que Jean-Claude et Héléa est en train doucement de passer la main. Il transmet... Mais
je crois qu'il a une certaine fille, aussi, entre autres, qui travaille déjà chez Hermès pour les objets parfumés. Mais il faudra passer la main. C'est l'art, justement, de ces grands noms, peut-être des passeurs. À un moment donné, il faudra. Et c'est bien de préparer sa suite.
Puisqu'on parle justement de parfum, l'objet de la semaine, et ben je vais vous parler de parfum d'intérieur. Vous connaissez la maison Cartel ? K-A-R-T-E-2-L.
Oui, design.
Voilà, c'est du design italien et notamment connu pour son mobilier en plastique, ou plus exactement en polycarbone. Et il y a des objets mythiques comme la lampe Bourgie, les chaises Louis Ghost, le divan Uncle Jack qui ont été designés par Stark. Donc ça, c'est pour le décor. Et il lance toute une collection d'objets de parfums d'intérieur. Et c'est assez étonnant parce qu'on ne retrouve pas tellement cet esprit. On a une sorte d'esprit art déco. Tout ça, c'est du verre. Et on a quatre scieries. On a des vaporisateurs, des dispositifs électroniques à capsules, des bâtonnets, des bougies. Il y a 8 fragrances. Tout ça dans les tons assez chauds, dans les verts, dans les bleus, le bronze, vous voyez le prune, des tons comme cela.
Et c'est
tout
du plastique, ça fait... encore ?
Ah non !
Ah non ! Parce que quand on voit les pièces... Les...
Pas tout. Non, ce sont des jolies pièces vraiment à exposer.
Avec
et en
des
plus,
matières un peu plus...
70 combinaisons possibles pour ces objets d'intérieur à découvrir. Et,
moi, je trouve ça assez réussi.
Ça vient d'être lancé. Voilà, bah, c'est pareil, hein, je vous laisse aller sentir, parce que le parfum, c'est toujours compliqué d'en parler... À la radio, comme à la télé.
On y arrivera, on est bien passé de la radio à la télé, de la télé-radio. Un jour, on fera de la radio-télé.
Merci beaucoup, Sandy Pronoy. À la semaine prochaine. Allez, petit retour en arrière pour nous.
Goodelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et petit comeback aujourd'hui dans Goodelux à l'occasion du salon du vintage. Coup de projecteur sur Maurice Renoma. Nous sommes donc en compagnie de Laurent Journeau, le fondateur du salon du vintage. Bonjour.
Un habitué de la maison.
De Maurice Renoma himself. Bonjour. Styliste, photographe, scénographe, etc. On va voir tout ça dans un instant. Puis de Gabriel Boret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre 1+1=3, Maurice Renoma, une aventure singulière, sortie il y a un an et demi maintenant aux éditions de La Martinière, qui était sortie à l'occasion des 50 ans de la maison Maurice Renoma. Alors, on va commencer avec vous, Laurent Journeau. Le salon du vintage, c'est 14 et 15 mars prochain. C'est à 15 et 16, 14 et 15, 14 et 15 mars prochain au carreau du Temple à Paris. C'est un rendez-vous dont on a l'habitude désormais sur Paris. Vous allez parler de David Bowie, on y reviendra dans un instant, mais aussi de Maurice Renoma. Pourquoi vous aviez envie de mettre à l'honneur Maurice Renoma ?
Alors pourquoi ? Parce que après le pop art viennent les années 70 chic, le velours, les satins, les années Pompidou. Et dans ces années-là, il y avait la maison Renoma qui habillait les plus grands, de Yves Saint Laurent à Karl Lagerfeld, en passant par John Lennon. Hein, d'ailleurs, dans le clip de Imagine, on voit une veste de Renoma. Et du coup, on a décidé de revenir sur ces années-là, les années 70 chic, les 14 et 15 mars au carreau du Temple.
Voilà, les années 70 chic, donc qu'est-ce qu'on y verra ?
Alors d'abord, on y verra la reconstitution d'un appartement 70 chic, donc comme à l'origine, avec les moquettes épaisses, les lustres dorés, etc.
Bon, heureusement qu'on n'a pas tout gardé, hein,
des années 70. Ce qu'on disait il y a 15 ans, on disait « Oh là là, c'est tout est acheté et maintenant tout le monde a envie de tout reprendre ».
C'est vrai. Donc, et puis on y verra également une exposition Renoma avec des pièces iconiques, intemporelles de la maison Renoma, des pièces portées par tous les grands de cette époque, hein, de Gainsbourg, à Dali, en passant, comme je vous disais, par Saint Laurent et autres.
Des pièces portées par ces personnes, véritablement.
Exactement, ce sont des pièces d'époque qu'apportera la maison Renoma, oui.
D'ailleurs, vous, là, pour ceux qui nous regardent à la télévision, vous portez une veste Renoma.
Exactement.
C'est laquelle ?
C'est le modèle dit Vasarely, modèle d'époque, tissu d'époque. Voilà.
Donc, Vasarely est un peintre culte des années 70. C'est vraiment le grand instant de Vasarely.
Exactement.
Alors, Maurice Renoma, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Styliste, photographe, designer, scénographe, on est obligé de raconter un petit peu votre histoire. Alors d'ailleurs, c'est étonnant, parce que le salon du vintage, c'est au carreau du Temple, et vous êtes né pas loin finalement, c'est le début de votre histoire.
Oui, justement, j'ai déjeuné avec Pierre Edenbaum, le maire du 3e arrondissement, et j'aurais bien aimé faire une rétrospective de Renoma au carreau du Temple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le carreau du Temple, en fait. J'ai fait, en demandant à plein de gens, c'est étonnant, mais les gens ne connaissent pas. Donc j'espère que grâce à Journaux, à Laurent, qu'on va faire connaître davantage le carreau du Temple, qui est un lieu extraordinaire.
Oui, magnifique.
Il y a toute une histoire de Paris que les gens ignorent. Et c'est pour ça que je suis ravi, moi, d'être...
En tout cas,
retourner au carreau du Temple.
Fils de tailleur, je le disais, vous êtes né pas loin, à deux pas du carreau du Temple. L'histoire commence dans une... Vous avez commencé à dessiner, à imaginer de la mosse. Ça commence dans une petite boutique prêtée par votre père, rue Notre-Dame de Nazareth. Et là, ça devient vite un engouement. Il paraît qu'on essayait les costumes devant chez vous dans les belles voitures.
Tout à fait. Donc, c'était des petites voitures anglaises qu'on avait. On n'avait pas de cabine d'essayage. La boutique faisait 12 mètres carrés, en fait. Et puis, on a réussi à, de bouche à oreille. En fait, à cette époque-là, on était tous des artisans. Il n'y avait pas de grosse industrie comme il y a maintenant. Donc, en vivant chez mes parents, à tous les étages, j'avais des ateliers, des culottiers, des fabricants de vestes, de ceintures, etc. Donc on pouvait faire des assemblages qui étaient intéressants, mais à l'artisanat. Donc on a dû imposer un style, en fait, un par un, avec mon frère d'ailleurs, mes parents.
Est-ce que c'était les frères Rénovant au départ?
Oui, Michel et moi. On avait l'outil de production qui était là. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus cet outil de production. C'est vraiment de l'artisanat. Et donc, il fallait faire connaître le français. Il faut considérer que dans les années 60, le français était une des personnes les moins bien habillées d'Europe. Hein. C'était même ridicule. Et nous, dès le début, on a imposé un style. Mais ça s'est passé un par un. On a vu arriver Tino Rossi, les enfants de Tino Rossi, Patachou, Picasso, les couturiers, etc. Tout le monde est venu s'habiller dans cette petite boutique.
Et comment vous l'expliquez ça? Parce que comme vous dites, il y avait l'outil de production était dans le quartier. Ce quartier du Marais qui pouvait pousser jusque dans le dos de la République, c'est-à-dire le sentier. Ok, vous n'étiez pas le seul. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, tous ces gens qui travaillaient avec cet outil de production dans ce quartier-là, il y en a certains qui ont percé la bulle et pas d'autres. Et vous, il y avait bien un style Rénova, il y avait bien une patte, il y avait bien une énergie que les autres n'avaient pas. Pourquoi ce beau monde arrivait déjà à la fin des années 60 chez vous, dans une toute petite boutique, pour venir s'habiller? Il n'y a pas au clair un outil de production, il y a un style quand même.
Il faut dire que j'avais 16 ans.
Un carnet d'adresse.
Il y avait 16 ans. Non, pas du tout. Non, il n'y avait pas du tout une organisation comme maintenant. On était vraiment seuls. Donc, c'est une démarche, c'est un par un. On écrivait aux gens, comme vous à la télé, je voyais, beau garçon, j'écrivais un petit mot, vous êtes magnifique, etc. J'ai un petit atelier, venez vous habiller chez nous, à vous faire, etc. Donc, par un, on a même vu arriver Raymond Zitrone, vous avez oublié, mais Raymond Zitrone, on a vu arriver des gens, Frédéric Potcher, des journalistes, qui étaient flattés qu'on leur écrive. Moi, j'écrivais toute la nuit des lettres manuscrites.
Vous aviez déjà la vision, quand même, quasiment, de la star, du média planning.
C'était manuscrit. On écrivait manuscritement aux gens, à la plume. Donc, les gens étaient flattés. Donc, ils sont venus.
Ils débarquaient.
Oui, un jour, j'ai vu débarquer des gens, des acteurs. Mais les gens n'osent pas. En fait, dans la vie, il faut oser. Donc, voilà. Moi, j'ai commencé à m'habiller à l'âge de 16 ans. Donc, mon premier vêtement, c'était le blouson de James Dean. Donc j'ai fait un blouson rouge comme dans La Fureur de Vivre que tout le monde a vu. Hein. Mais mon acteur fétiche, c'était, il n'y en avait pas d'autre, c'était James Dean. C'est le seul qui avait une conception, enfin, qui est né un peu à New York. Il a vécu à New York. Il est arrivé à New York à l'âge de 22 ans, mais il a connu un peu ce côté un peu passantier, mais le côté de Tribeca, tout ça. Donc il y avait un peu, on peut dire... c'était un endroit assez provoquant, enfin, anarchiste, etc. Oui, marxiste, judéo-marxiste, etc. Bon, c'était très rebelle. Donc, en fait, le symbole de James Dean, pour moi, ça a été le déclencheur.
C'est ça. Il y a des pièces iconiques. 63, c'est votre ouverture rue de la Pompe dans le 16e. Mais alors, Laurent, sur le salon du vintage, on retrouve, vous disiez, quelques-unes de ces pièces iconiques. Alors, il y a les blazers. On retrouve un blouson de James Dean. Qu'est-ce qu'on retrouve?
Ça, c'est à Maurice, il faudra le demander. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que la mode homme à l'époque était vraiment pas courante. Et ce qui est intéressant, c'est que les couturiers de l'époque, hein, comme Lagerfeld ou Yves Saint Laurent, venaient s'habiller chez Renoma. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait avec Maurice, par exemple, du smoking que tout le monde attribue à Yves Saint Laurent.
Lui, c'est smoking pour femme.
Pour femme, absolument, absolument. Et c'est vrai que on le retrouvait dans la boutique Renoma, hein, puisque c'était une mode assez assez unisexe, hein, assez. Absolument. Et du coup, Saint-Laurent s'est sans doute inspiré dans les boutiques Renoma de cette mode de smoking et l'a fait pour la femme.
Alors, c'est ces pièces qu'on va retrouver durant le salon du vintage, du moins en partie. Si on en vient, on oublie un peu l'époque, on oublie un peu vos influences et notamment James Dean. À l'instant de dessiner vos modèles à l'époque, c'est quoi le style Renoma? On parle déjà d'androgynie, ce qui à l'époque est vraiment une petite révolution. Les coupes, c'est quoi? Quand vous dessinez à l'époque, c'est quoi votre idée?
Non, je ne sais ni dessiner ni coudre. Hein.
C'est peut-être
je suis intuitif, donc je sens les choses. Mais enfin, ceci dit, dessiner une boutonnière ou dessiner une épaule, je sais le faire, mais je ne dessine pas. C'est pas académique, mais je ne sais rien faire en fait. C'est l'avantage de ne rien savoir faire. Donc j'apprends comme ça sur le tas. J'apprends et je laisse le hasard un peu me dicter. Et il est vrai que on avait une ligne particulière. C'était les épaules, une ligne d'épaule qui était. L'influence Kennedy, c'est vrai. C'est l'allure qui m'intéressait davantage que la technique.
La silhouette,
oui.
D'ailleurs, c'est cet œil que vous avez gardé, parce que ça, c'est un petit peu le début de votre histoire, oui. Maurice Renova. Et puis après, vous en venez à la photo. Enfin, au modographe, c'est-à-dire que vous mélangez cette idée de mode et de photo au début des années 90. Vous imaginez ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire, modographe?
Non, mais j'ai inventé ce mot parce que j'aime bien mélanger les mots comme ça. En fait, ça voulait dire... C'est, grappe, ça veut dire écriture, et mode. Donc, de toute façon, ma mode à moi est une façon de s'exprimer, en fait. C'est une attitude. Donc, j'ai mélangé les deux parce que je trouve que... En mode, j'avais fait trois fois le tour, les pas de def, les costumes cintrés, etc. Bon, c'est vrai que j'ai cherché un autre moyen de m'exprimer. C'est une façon de m'exprimer, en fait. Donc, mode de grappe, je m'exprime par la mode, je m'exprime par la photo.
Le mobilier. Et c'est pour ça que... Alors, pardon, vous n'avez pas encore parlé, Gabriel Boré. C'est pour ça que vous appelez votre ouvrage 1 plus 1 égale 3 ?
Oui, l'idée de l'ouvrage, c'était effectivement de faire se rencontrer deux itinéraires, l'itinéraire du créateur de vêtements et l'itinéraire du créateur d'images. Et je m'étais dit que finalement, trois, c'était quelque chose d'un peu inédit, quoi, parce que cette rencontre, elle est il y a quelques couturiers photographes.
Hein. La Garfeld,
pour ne pas le nommer.
Mais ses assistants qui appuient.
Là, c'est différent parce que ce qui était intéressant chez Maurice, que j'ai découvert, parce que moi, je ne connaissais pas avant d'avoir été invité à faire un livre sur ce travail, c'est que il y avait un itinéraire photographique très très libre. Enfin, Maurice dit qu'il est intuitif en matière de création vestimentaire, mais en photographie, c'est aussi cette idée-là qui était intéressante. C'est-à-dire quelqu'un qui est pas, qui appartient pas à une école, qui a pas un gourou, un grand maître dont il veut suivre les préceptes. Il a commencé, enfin, je me permets, hein, Maurice, de parler comme ça, mais sans idée de préconçue. De voir avec un appareil qu'est-ce qu'on pouvait faire comme image, et puis de raconter. Moi, pour moi, c'est un peu aussi un peu autobiographique. Chaque photo est
Vous êtes vous-même photographe?
Non, pas du tout. Moi, je m'occupe des photos des autres. Donc,
oui.
mais disons que si vous voulez, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas un photographe de mode. Et c'est pas non plus un photographe qui a un cursus artistique. C'est pour ça qu'un plus 1 égale 3, c'est quelqu'un qui est un peu au milieu, comme ça, entre deux.
Un photographe de traverse.
Oui, qui répond à des instincts, et c'est, pour moi, c'était intéressant de rencontrer cette nouvelle type d'activité photographique, parce que moi, je suis effectivement au milieu professionnel où on fréquente des gens qui ont des carrières, des projets, des choses, des concepts, etc.
Ils sont très balisés dans l'avant et dans
l'après. Oui, et qui sont soit dans une démarche artistique, soit dans une démarche d'art appliqué. Et là, il y avait un chemin à part, quoi.
Maurice Renaud, pourquoi au tournant des années 90, vous décidez de vous exprimer par la photographie? Vous aviez fait le tour de la mode, elle ne vous intéressait plus dans ce qu'elle est, dans ce à quoi elle s'était installée, c'est-à-dire véritablement un big business comme les autres.
Non,
qu'est-ce qu'il y avait?
En fait, je voulais découvrir une nouvelle façon de m'exprimer. Et je trouve que la photo, c'est nettement plus facile. Et puis c'est assez rapide. J'aime bien les circuits assez courts. Donc, on a le contact direct avec les gens. C'est vrai, quand on fait une exposition, on parle avec les gens, etc. Moi, la mode, c'était pareil, c'est avoir le contact avec les gens. Donc, au départ, on a commencé, on vendait les costumes. Après, ça, on les vendait un par un. On avait le contact avec les gens. Après, on est devenu plus gros. On n'avait plus de contact. Donc, moi, j'ai besoin de contact avec les gens. Et il est vrai, quand on fait des photos, on a un contact à tout point de vue. Et ensuite, je ne trouvais pas de photographe qui arrivait à exprimer ce que je ressentais.
Et puis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai, vous parliez d'exposition, on va en parler dans un instant. Parce que, on expose beaucoup vos photos, et pas seulement au Renoma Café Galerie. On va y venir dans un instant. On fait une petite pause sur Goodlux Paris, on se retrouve tout de suite.
Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Goodlux retour sur le passé avec le salon du vintage qui met à l'honneur Maurice Renaud. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Journeau, l'organisateur du salon du vintage. Maurice Renaud, styliste et photographe, et Gabriel Boré, auteur du livre 1 plus 1 égale 3, Maurice Renaud, une aventure singulière. C'est un petit peu vache ce que je dis depuis tout à l'heure, Maurice Renaud, parce que je dis retour sur le passé, comeback, mais vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours là et vous êtes toujours actif. Donc oui, on vous met à l'honneur au salon du vintage, mais Maurice Renaud est bien
vivant.
J'ai
toujours essayé de sortir de cette idée du vintage, je replonge encore.
Donc vous remerciez Laurent Journeau aujourd'hui?
Oui, Laurent, il a... Non, mais C'était le carreau d'étampe qui m'a attiré, en fait.
C'était pas
le retour. C'est encore pire, c'est encore plus passé que passé. Non, non, je suis intéressé par le présent et le futur. Et c'est vrai qu'on nous a mis une étiquette, Renama, les années 60, 70, Minet, etc., les dandies. Mais j'ai toujours essayé de sortir de cet univers, mais on nous replonge dedans. Donc,
et c'est comme, donc on va aussi parler du Maurice Renama d'aujourd'hui. On disait photographe avec pas mal d'actualités. Vous revenez de Miami. Je ne sais pas si vous y étiez. Il y avait une vente aux enchères des blazers Maurice Renama à la Fine Art Auction de Miami. Ça s'est bien passé ?
Écoutez, j'y étais pas, mais j'ai passé un mois avant. J'avais trois expositions à Miami, donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir participer à ces expositions. Et puis j'adore Miami parce qu'il y a plusieurs... ça évolue énormément, surtout dans l'art, dans le street art, etc. Et moi, me plonger dans le street art, ça me donne des ailes. Donc je découvre plein de choses. Et c'est vrai que c'est très, très dynamisant. Alors donc, faire trois expositions simultanément...
Il y a aussi Wynwood, ouais. C'est ça ?
Wynwood,
jusqu'au 31 mars, une sélection d'œuvres inédites de votre travail photographique.
Oui, puis je suis entouré de jeunes artistes du street art, donc en fait, mes photos correspondent très bien. En fait, je suis seul photographe à exposer à Wynwood des œuvres photographiques. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est certainement qu'il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé. Et je rêvais d'exposer à Wynwood. Donc, j'expose à Wynwood, à Miami Beach et à Palm Beach en même temps. Donc,
Gabriel Boré, vous qui n'êtes pas photographe, mais qui accompagnez ce monde de la photographie, vous le connaissez bien, vous l'expliquiez tout à l'heure. Maurice Renama, c'est un peu un libertaire, un photographe de traverse qui n'est pas forcément dans la geste de ces photographes artistes ou de ces photographes plus conceptuels. Comment il est accepté dans le milieu ? Est-ce qu'il y a un regard ? Vous qui êtes justement expert, est-ce qu'on le prend pour... un cas à part, une manière de venir, un 1 plus 1 égale 3, ou est-ce qu'aujourd'hui, après quasiment 20 ans de création, il s'installe comme un nom qui compte dans le monde de la photographie, où est-ce qu'il reste cet éternel œil à part,
quoi. Enfant.
Troisième œil. Je ne vais pas dire enfant, troisième œil.
J'aime bien le côté...
Enfant,
oui, parce que ce goût d'expérience quoi, qui est tout au long qui jalonne tout son travail. On a dans le livre justement, on a fait une conception chronologique, mais à l'envers, c'est-à-dire en partant de ce qu'il y avait aujourd'hui, puis remonter dans le temps jusque vous parliez de début des années 90. Donc c'est une période qui est à la fois assez courte, mais pleine de changements, c'est-à-dire que au début, il travaille avec les outils traditionnels de la photographie, le noir et blanc, l'argentique, etc. Puis peu à peu arrive la technique numérique, donc qui offre de nouvelles possibilités dans lesquelles il s'engouffre. Et puis après le montage, et donc c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est ce côté justement, j'allais dire candide presque un peu. Enfin, voilà, on découvre des nouvelles manières de faire des images. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que sans espèce de manœuvre par rapport à une stratégie de communication, etc. Enfin, moi, c'est ce qui m'a intéressé et ce que j'ai trouvé atypique.
Justement, Maurice Renama, on vous connaît aussi beaucoup, tout le monde, même si... ils ne se souviennent peut-être pas que c'est vous, ces fameuses têtes de cheval, par exemple, en noir et blanc, auxquelles vous avez ajouté des mèches. On les retrouve aussi sur le mobilier. C'est ça qui vous a amusé aussi. Vous êtes, du coup, allé plus loin, vous avez utilisé vos photos.
Ben, les gens de la mode, on prend un bout de tissu, on a fait plein de choses. Mais c'est vrai qu'avec la photo, ce qui m'intéressait, c'était quoi faire de la photo. Tout le monde est photographe, surtout maintenant, comment vivre de la photo. Enfin, moi, je ne vis pas, je m'amuse avec la photo. Mais ceci dit, maintenant, j'en vis. Alors, donc, ça me passionne. Et puis, c'est en fait, la mode, la photo, la scénographie, les expositions, tout ça, c'est très enrichissant. Je m'enrichis énormément. Je crois que je n'ai jamais été aussi cultivé que maintenant. Bon, c'était être dans les tissus du matin au soir, on finit par perdre sa tête. Mais là, c'est vrai que je me cultive et je suis ravi.
Je m'atteste.
Laurent Jean, alors c'est mobilier, on retrouve au Renama Café Galerie.
Oui, il y a une partie,
que vous avez créé il y a quelques années. Maintenant, c'est important justement d'avoir ce lieu où exprimer toutes ces facettes.
On avait fait une opération qui était intéressante avec 35 peintres où je leur ai dit, vous, on accroche vos peintures sur les murs. Moi, j'aime bien quand les gens tournent autour de l'œuvre et que ce ne soit pas spécialement accroché sur les murs. Donc, en général, mes photos, je les posais à terre ou je les mettais, j'en fais même des tapis maintenant, on marche dessus. Les gens n'osent pas te marcher dessus. Mais c'est vrai, c'est de détourner les objets qui m'intéressent. Et avoir mis des photos sur des fauteuils Les gens, c'est vrai, on a un objet d'art, du coup on tourne autour, il n'est pas accroché au mur, tout en étant un objet pratique, et puis c'était de détourner la photo. En fait, c'est quoi faire de la photo. Donc la matière est intéressante. Moi qui suis qui part du tissu ou du fibre, j'étais intéressé par le papier, donc ou papier ou tissu. Donc c'est pareil pour moi. Donc c'est un développement intéressant en tout cas.
Est-ce qu'on retrouve certaines pièces de mobilier de Maurice Renoma au Salon du Vintage, Jean-Journeau?
Alors il va y avoir quelques pièces de mobilier de Maurice Renoma, mais ça sera surtout du vêtement, donc comme par exemple les vestes croisées que portait Gainsbourg. Donc ça, c'est vraiment des pièces que tout le monde a en tête. Et puis voilà, on va retrouver
chemise imprimée, costume cintré, ultra cintré, dit-on.
Exactement. On va retrouver cette fameuse pièce que porte John Lennon dans le clip Imagine. Hein. On va retrouver avec des pièces aussi iconiques de Renoma comme la veste multipoche qui a été aussi un grand succès et puis une pièce aujourd'hui indémodable.
Mm-hmm. Maurice Renoma, votre fille Stéphanie Renoma, elle est dans la mode.
Oui, elle reprend le relais, mais c'est plutôt le côté féminin.
C'est
le côté masculin, androgyne, et elle, c'est vraiment féminin.
Mais alors, n'empêche que pour faire le lien avec ce que disait Laurent Journeau tout à l'heure, en ce moment, il y a une exposition au Complexe Thor, rue de Longchamp, dans le 16e à Paris, Dancing Smoking, chapitre 3, jusqu'au 31 mars, où elle reprend le smoking.
Oui, revue par elle.
Revue par Stéphanie Renoma.
Revue actuellement, réactualisée.
C'est-à-dire que l'influence du père est tellement forte que non, on
pas
retrouve
du tout.
L'histoire.
Non, elle a c'est fantastique. Non, elle est complètement libre. Elle a été toujours élevée en fonction d'une grande liberté et surtout pas reprendre la même chose que moi, évidemment. Non, elle le fait à sa façon. Elle est complètement libre de le faire. Je la laisse libre. Je donne pas du tout mon avis. Hein. Je l'encourage au contraire de pouvoir s'exprimer elle-même.
Vous étiez un créateur, vous êtes un créateur multipiste, une sorte de couteau suisse avant que ce soit la mode, on l'a vu, hein. Donc la mode bien évidemment, le mobilier, la photographie, mais l'un dans l'autre. Alors maintenant, votre fille continue à créer, mais vous n'avez pas envie de recoller un peu de temps en temps, le temps peut-être d'une collection capsule, de re-signer un peu une collection Renoma, qui en fait finalement, on ne pourrait plus faire de la mode. On nostalgise à mort, mais du Renoma 2015.
Non, mais la mode n'est plus comme avant. Maintenant, c'est repris par des grosses sociétés, etc. C'est marketisé, donc.
Ça pour vous, c'est.
Ça ne m'intéresse pas du tout. Si je veux bien faire des collections flash, ça m'arrive, j'en fais tout le temps. Mais enfin, si Stéphanie se met en place, etc., ça va me donner envie de faire autre chose. D'abord, qu'elle fasse sa place et qu'elle puisse. Composer elle-même.
Un joli père en plus.
Qu'est-ce que vous appelez une collection flash?
C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans le système de présenter des collections quatre fois par an où on est prisonnier de plein de choses. D'abord, c'est des investissements colossaux et je ne tiens pas à être prisonnier de ces investissements et de plus être maître de ma société, de ne plus faire ce que je veux quand je veux. Donc, j'aime bien travailler à ma façon, à mon rythme et avec mes pulsions.
On comprend mieux ce que vous disiez tout à l'heure. Écoutez, Maurice Renoma, Gabriel Boret, effectivement, Maurice Renoma fait ce qu'il veut. Dans ce livre 1+1=3, quels sont vos clichés préférés? Est-ce que vous pourriez nous en montrer un ou deux qui sont... Vous êtes très représentatif.
J'aime bien les débuts parce que il y a quelque chose de très, très intuitif dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est une image que j'adore.
Alors,
je sais pas où on peut
racontez-nous.
J'aime beaucoup cette image, mais Maurice va peut-être trouver que c'est un peu ancien. Mais je trouve qu'il y a une fraîcheur, quelque chose de
très. Cette femme qui court.
Ouais, j'aime beaucoup, par exemple.
Un pantalon un peu flouté. Voilà. Ça date de quand, ça?
Ça, ça fait partie des débuts. C'est 94.
Vous vous souvenez quand vous l'avez pris, Maurice Renoma?
Oui.
Je vous demande un grand souvenir de mode,
je me rappelle de chaque photo parce que chaque photo est une aventure.
Oui,
en fait.
Une histoire.
Alors, cette femme qui court.
Mais je cours pas après elle, en tout cas.
Mais
celle
qui court.
C'est elle qui court vers moi.
Mais
je ne savais pas faire de. J'avais acheté mon premier appareil photo. Je dis, on met en automatique, je ne veux rien savoir parce que je n'ai pas de temps à perdre à lire les livres. Et donc, moi, j'aime bien l'objet. Donc, l'objet, c'est l'objet qui travaille, en fait. Je me laisse aller. Et c'est vrai que je ne savais pas comment faire. Mais là, pour une fois, je voulais faire du flou bouger. Je ne savais pas. Et là, j'ai lu comment faire le flou bouger. Alors, j'étais là avec mon télescope, là. Et j'étais là en train de dire, bon, vous mettez, il faut que la fille court, que vous la preniez comme ça, avec le téléobjectif, vous bougez légèrement l'objectif, c'est un 350 Je ne donne pas la marque.
Vous pouvez.
D'accord. Canon. Donc, j'étais assez lourd. Donc, il faut bouger. Alors, j'étais là avec mon bouquin. Je lui ai dit, il faut bouger. Il faut remuer, tourner. Et puis, j'ai fait ma première photo. Flou, bouger. Donc,
pas mal.
Oui, c'était là,
elle,
c'est la première fois que.
Combien de fois
Non, non, une seule fois. Non. Puis, il y a une photo avec les animaux qui se croisent. Je ne sais pas s'il est dans le bouquin. Oui. C'était extraordinaire.
Non, mais il y a beaucoup de choses. Et puis, après, on a plus on.
Enfin, chaque photo, en fait, est une aventure.
Il y a un côté autobiographique aussi qu'on sent dans le travail. Et on sent vraiment que c'est pas quelque chose de construit en studio, mais c'est plus instantané. Enfin, moi j'aime bien cette période instantanée, mais après les choses deviennent plus complexes. Il y a l'histoire aussi du montage, de, comme je disais tout à l'heure, de tout ce qu'offre la technique aussi que Maurice. Et puis après arrive la couleur aussi. Donc,
ah oui, parce que je pensais que vous n'aviez fait que du noir.
Non. Tout se passe avec des choses comme ça qui sont encore, par exemple, dans l'esprit noir et blanc, mais où la couleur commence à faire son apparition.
Une lumière assez froide,
voilà.
Une lumière assez...
Et puis, des choses qu'on imagine, qu'on a mis aussi là, qui sont des paysages très picturaux. Donc, il y a une grande diversité. Là, on voit arriver le numérique avec toutes les possibilités de retouche, de transformation de la photographie, les collages, les montages, c'est-à-dire ce que Maurice exprimait, ce qui fait aussi... le lien avec la construction d'un vêtement, c'est-à-dire de rapprocher des matières qui étaient, pour moi, si je peux me permettre de faire une incursion dans le domaine du vêtement, ce que je trouve intéressant, c'est que il a, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait rentrer dans le vêtement masculin des matières et des couleurs qui étaient pas attendu du tout, puisqu'on était dans le blazer traditionnel, bleu marine, c'est vrai. Je dirais pas que l'homme français était le plus mal habillé, mais disons qu'il était sans risque.
Et sous contrôle.
Maurice, il a fait, il a donné un peu un coup de pied dans la fourmilière, il a fait rentrer des matières et des couleurs et des motifs qui étaient inattendus.
Voilà, et donc on retrouve ces matières, ces motifs sur le salon du vintage le 14 et 15 mars et sur le dos de Laurent Journeau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On redécouvre ces blazers. Les photos, on peut les retrouver donc dans cet ouvrage de Gabriel Boret, 1 plus 1 égale 3, Maurice Renoma, une aventure singulière. C'est sorti aux éditions de La Martinière. Et Maurice Renoma, on peut vous retrouver où, à Miniami?
Non, là, je reste à Paris un certain temps, mais j'allais voir au Carreau du Temple. J'adore le quartier, oui.
Merci infiniment d'avoir été avec nous. Allez, restez avec nous, Goudelux, c'est pas tout à fait terminé. L'agenda, dans un instant.
Goudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Allez, des Goudelux vintage encore pour un instant, avant de vous emmener à Versailles. Ce sera dans un instant
ça
avec
Capucine Gragne.
Ouais, assez vintage, ouais, c'est vrai. Le livre de la semaine, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé vintage, mais je ne pouvais pas passer du coup à côté de celui-ci. C'est le guide du Paris vintage sorti aux éditions Duchesne. Cathy Robin, journaliste pour le mensuel Antiquité et Brocante. Le photographe, c'est Julien Chamou. Il est lui-même brocanteur, donc autant vous dire qu'ils connaissent la chose. On parle pas que d'Antiquité et Brocante, attention hein, là-dedans. 180 adresses parisiennes pour chiner, vivre vintage, manger vintage, presque dormir vintage, en tout cas chanter vintage, parce qu'il y a mode et accessoires. Esprit déco, musique, coiffeur et barbier.
Psychologie, sociologie du vintage.
Locomotion, ça va vous intéresser. Il y a évidemment des choses sur l'automobile. Des bars, des restos, des cafés, des concerts, des soirées. Et puis il y a des inclassables. Par exemple, ça c'est une adresse, c'est All Access dans le 17e. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un monsieur qui tient une librairie disquaire, galeriste à découvrir. Voilà, c'est tout un univers autour de la musique. Il y a bien sûr des adresses.
Parce qu'autrement, si on veut des livres vintage, il suffit de traverser les quais de Seine. Il y a des petites baraques qui s'appellent les bouquinistes.
Oui, évidemment.
C'est vieux comme Paris.
Donc évidemment, là aussi, on vous donne quelques adresses aux puces. Et évidemment, on vous cite le salon du vintage dont on recevait le créateur Laurent Journeau tout à l'heure.
Et rapidement, c'est les éditions Duchesne qui, depuis 3 saisons, je crois, avec cette collection de guides, sont en train de s'installer véritablement. C'est très réussi, ça renouvelle un peu le genre. On est entre le beau petit livre et le guide pur et dur. J'aime beaucoup moi, la collection et les auteurs qui travaillent à ces guides de Paris.
Il y a un vrai boulot de recherche.
Ouais.
Voilà. Allez, Goudelux d'ici et d'ailleurs.
Goudelux Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Gravy, bonjour.
Bonjour.
Votre site mymoonspots.com, vous nous emmenez à travers le monde toutes les semaines, l'Argentine, l'Uruguay, le Vietnam et de temps en temps aux portes de Paris parce que parfois le voyage est aux portes de Paris.
Mais on me réclame souvent des adresses près de Paris.
Et ben voilà,
j'ai voulu exaucer les...
C'est normal.
Ben oui. Donc là vraiment on part pas loin.
Très bien.
Pour les Parisiens, un quart d'heure en voiture et on
un
est quand même déconnecté. Ah ben j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Ah,
d'accord. Alors, la semaine. C'est bien qu'il y a la semaine.
Non, pas comme vous, travaillez pas. Je suis parti un samedi.
Ah, en plus.
Je suis parti un samedi.
Oui, enfin, 6 heures du mat.
Très bien.
Non, non, bon, bref. Okay. Et donc, une petite adresse sympa pour partir pas loin. Et pour ceux, donc à Versailles, juste à 500 mètres du château de Versailles. Et pour ceux qui n'ont pas forcément envie de casser leur tirelire non plus, parce que c'est vrai que l'Argentine, c'est loin. Là, c'est en voiture. Et c'est un excellent rapport qualité-prix. Ça s'appelle l'Hôtel du Jeu de Paume. Et c'est donc une toute petite adresse qui a ouvert il y a 2 mois et qui change un peu du Trianon Palace, des hôtels Mercure ou des vieux hôtels un petit peu vieillots qu'on peut trouver à Versailles. L'Hôtel du Jeu de Paume, c'est le coup de cœur d'un trentenaire, ancien trader chez Goldman Sachs, qui caressait l'idée de créer un hôtel depuis longtemps. Il avait déjà l'hôtel d'Angleterre et là, il vient d'ouvrir ce petit hôtel. Alors, effectivement, à Versailles, il y a l'histoire du château, mais il y a aussi l'histoire, enfin moi, je savais pas, c'est le nom de l'hôtel, le Jeu de Paume. Pourquoi ? Parce qu'on est face à la rue du Jeu de Paume. Évidemment, vous savez toujours tout. Oh mais la salle du Jeu de Paume, elle est en face. C'est-à-dire qu'on est dans une chambre qui avait vue sur la salle du Jeu de Paume. La salle du Jeu de Paume, je rappelle, c'est donc le début de la Révolution française et le fameux serment du Jeu de Paume qui a créé l'Assemblée nationale. Voilà, je l'ai révisée cette année, mais sinon, je me rappelais pas. Elle existe, on peut la visiter gratuitement. Bon, vous savez tout. Bref, voilà.
Donc, non, mais vous avez raison.
Non, c'est parce que c'est vrai que c'est de l'autre côté. C'est à 200 mètres du château. Et c'est vrai que c'est un lieu étonnant dans lequel on jouait à l'époque.
C'était la salle du Jeu de Paume.
Et après, donc, ça a été transformé pour les États généraux.
Il fait le malin. En revanche, il ne connaît pas l'hôtel. Donc là, il va vous écouter. Il ressemble à quoi, votre petit hôtel ?
Donc, c'est dans une des plus anciennes rues de Versailles. Et c'était l'ancienne chancellerie de Louis XV. L'extérieur, il est forcément ocre jaune. J'ai aussi appris quelque chose. Mais on est obligé de perpétuer cette couleur ocre jaune depuis Louis XIV, qui avait décrété que toutes les façades devaient être dans ces couleurs-là à l'époque. Alors, le propriétaire s'appelle François Comines, donc on l'a dit, il est trentenaire, et sa grande chance a été d'être ami avec un jeune designer assez talentueux qui s'appelle Nicolas Stadler. Nicolas Stadler, il développe librement des concepts pour Rochebeaubois, et il a été lauréat des Face of Design Awards en 2012. Donc, ils ont travaillé tous les deux, main dans la main, un peu en toute complicité, et il faut dire que le propriétaire a donné complètement carte blanche au designer. Qu'est-ce que ça donne? Des chambres, une douzaine de chambres, assez cosy. Assez atypique pour Versailles, un alliage du bois et de couleurs sourdes, un peu framboise, beaucoup de bois, notamment on est immergé dans le bois, dans le hall d'entrée, ce qui est assez étonnant, des parties prises de couleurs, notamment le jaune et le noir qui rappellent les taxis new-yorkais chers aux propriétaires, un pari aussi comme cette yourte étonnante dans laquelle on petit déjà,
une
petite yourte. Une yourte à l'intérieur, il faut aller voir. Ouais. Une yourte à l'intérieur de cette maison bourgeoise qui permet de prendre le petit déjeuner. Donc il y a un complet décalage entre Versailles et effectivement les yourtes mongoles. De manière générale, les chambres sont cosy et confortables. Il y a un petit clin d'œil avec le lit à baldaquin, très design. Clin d'œil avec effectivement le lit de Louis XIV qui est à quelques mètres. De manière globale, on peut dire que c'est assez coloré et c'est très esprit loft new-yorkais. Voilà.
Parfait, ça s'appelle l'hôtel du Jeu de Paume et c'est votre découverte capucine quand on est à Versailles. Donc, le château, la salle du jeu de paume. Et puis les jardins du château et notamment le potager.
Bah oui, parce que c'est le moment de rappeler qu'effectivement Alain Ducasse s'approvisionne depuis peu le potager de la reine Marie-Antoinette.
Depuis septembre dernier, lorsqu'il a décidé son restaurant du Plaza, vous savez, de travailler à la naturalité, c'est-à-dire de focaliser sa carte sur le poisson et sur tout ce qui est légumes, de bannir tout ce qui est viande, il s'est associé avec le potager du château de Versailles qui lui fournit en direct chaque jour tous les légumes et une partie des fruits qui alimenteront donc le menu quotidien du Plaza. C'est assez étonnant, assez radical, parce que jusqu'à présent, c'est un petit potager assez intimiste, assez réservé. Pour la première fois, ils fournissent un grand restaurant. Je crois qu'ils ont d'autres ambitions, ce potager.
On peut aussi acheter des légumes.
Oui, on peut y aller, mais je veux dire, c'est un très intimiste. Il faut aller sur place, c'est ce petit panier. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas. Bien sûr, ça se mérite.
Alors, j'ai vu que c'était le mardi et le jeudi, donc j'ai prévu d'y aller la semaine prochaine.
Alors, le fameux Alain Baraton, qui est certainement l'un des plus célèbres.
Le jardinier en chef.
Le plus célèbre jardinier en chef.
C'est lui qui signe la diversification au passage.
Alors, il ne s'occupe pas directement, il a beaucoup de pudeur, Alain Baraton, il ne s'occupe pas directement du potager. Il orchestre l'ensemble des jardins. J'ai oublié la personne qui s'occupe du potager, mais c'est vraiment quelqu'un de dédié. Alors, vous pouvez aller au Plaza, vous pouvez y aller effectivement le mardi. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait aller directement sur place.
Entre 10h et 18h.
Et puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'on redécouvre ces jardins. Et moi, je les trouve assez beaux l'hiver. Parce que c'est.
Il y a un peu moins de légumes.
Il y a un peu moins de.
Mais il y en a pas mal.
Il y a tous les légumes d'hiver, les choux, les patates. Ouais. Mais c'est surtout les jardins. Il y a surtout une chose de formidable, c'est qu'il y a la foule en moins. Et donc, certes, les arbres sont un peu dénudés, mais alors, quel plaisir d'avoir un petit peu comme ça cet espace pour quasiment soit tout seul.
Voilà.
C'est pas mal.
C'est le moment d'aller découvrir Versailles. Merci beaucoup, Capucine. Vous restez encore un petit peu avec nous. Et évidemment, on retrouve tout ça sur mymoonspots.com. Allez, l'agenda.
Good Lux Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Une expo pour laquelle il vaut mieux réserver peut-être.
Exactement, vous vous souvenez la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je vous parlais de la réservation en direct là pour l'exposition de David Bowie qui avait triomphé à Londres et qui va commencer bientôt à la Philharmonie de Paris. Et bien là, même punition, même motif. C'est une exposition qui a triomphé à Montréal il y a deux saisons. Elle arrive à Paris, cette fois-ci du côté du Grand Palais. Autant vous dire que lorsqu'elle va commencer le 1er avril, et ce n'est pas une blague, il y aura une foule qui serpentinera comme ça dans le Grand Palais.
On parle de mode.
Et là, c'est de la mode pure et dure. C'est la première monographie, j'allais dire, scénographie dédiée à un grand, l'enfant terrible de la mode parisienne, Jean-Paul Gaultier. Elle arrive à Paris, cette exposition. Faut vraiment réserver dès à présent. Vous allez sur le site du Grand Palais, www.grandpalais.fr. Vous réservez vos billets, parce que autrement après, ce sera infernal. La semaine comme le week-end.
Alors, une autre exposition, on parle aussi de mode, quoique de parfum aussi. C'est l'exposition, il y a un petit peu moins de monde. Ça se passe chez Guerlain, 68 aux Champs-Elysées, Paris 8e. La petite robe noire, variation autour d'un mythe. Vous savez, c'est leur parfum, grand succès sur le marché du parfum. Cette petite robe noire, quand vous voyez la campagne avec le corps qui danse, là, très très réussie.
Très difficile de la rater.
Évidemment, la robe noire dans la mode, l'indispensable. Et du coup, ils ont réalisé, c'est marrant parce que c'est une expo en trois parties. Vous avez le commissariat, c'est Jean-Luc Monterosso, le directeur de la MEP quand même, la Maison Européenne de la Photographie. Donc vous avez l'historique avec des tirages issus des collections de la MEP, de Cartier-Bresson ou de William Klein par exemple, autour de la petite robe noire. Il y a une partie contemporaine avec une réalisation du photographe chinois Liu Bolin. Liu Bolin, comme ça, ça vous dit peut-être rien, mais c'est celui qui se camoufle dans ses réalisations. Donc là, par exemple, il a fait une grande photo fleurie. Il faut chercher l'homme. Vous savez, il se maquille, etc. Et en fait, on doit le trouver à l'intérieur. Et la troisième partie, hyper intéressante, ils ont travaillé avec les Gobelins, 45 étudiants des Gobelins, l'école de l'image.
Ah non, l'école.
Ouais, l'école de l'image, ils ont fait 14 vidéos, 14 petites vidéos, petits films, justement, autour de cette question de la petite robe noire, du mouvement. Elles sont vraiment très réussies, très belles. Et donc, ça allait voir, là, il n'y a pas forcément de file d'attente. La petite robe noire, variation autour d'un mythe, c'est à la Maison Guerlain, 68 Champs-Élysées. Vous avez jusqu'au 15 avril, donc vous avez encore un petit peu de temps. En revanche, c'est quand votre vente aéronautique?
Ma vente aéronautique, c'est pas difficile, c'est lundi, c'est-à-dire demain, le 2 mars, du côté de chez Arcurial. Elle a lieu tous les ans depuis quelques saisons. La vente dédiée aux mythes aéronautiques vont être dispersées une centaine, voire un peu plus de pièces. Alors, ça va véritablement du petit trousseau, vous savez, de beauté qu'on trouvait à l'intérieur du Concorde chez Air France, à des pièces beaucoup plus conséquentes, des tableaux de bord, des antennes. Bref, c'est la vente aéronautique Arcurial, rond-point des Champs-Élysées. Demain, lundi 2 avril, pour ceux qui ne travaillent...
De mars, pardon.
Pour ceux qui ne travaillent pas la semaine. C'est-à-dire, vous ne serez pas là, Karine, mais on ira avec Capucine, main dans la main. Après, on ira à Versailles.
Merci beaucoup, Capucine Gravy. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux voyages. Allez, restez avec nous dans un instant. Toujours plus de Good Lux.